explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Si d'aventure, vous croisiez un extraterrestre et qu'après avoir sympathisé, il vous demande de lui raconter à quoi ressemble la vie sur votre planète. Vous lui parleriez des animaux terrestres et aquatiques, des arbres certainement, des plantes plus généralement, et peut-être des fleurs. Mais penseriez-vous à lui parler des microbes, bactéries, levures et autres champignons microscopiques ? Les considérer comme trop anecdotiques ou pas assez représentatifs serait une erreur macroscopique. La plupart des espèces vivantes sur Terre sont des microbes. Ils constituent l'essentiel de la biodiversité sur notre planète et interagissent de façon déterminante avec toutes les autres formes de vie à la surface du globe. Tous les végétaux et tous les animaux dépendent intimement d'eux. Notre invité d'aujourd'hui n'hésite pas à l'affirmer. Les grands organismes pluricellulaires ne sont que l'écume de l'océan microbien. Vous n'en douterez plus après être parti en bivouac avec lui sur la planète des microbes.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez publié chez Actes Sud un livre intitulé « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Vous allez nous expliquer comment ces microbes tirent toutes les ficelles du monde vivant. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Et à 17h, nous embarquerons avec un musicien, Romain Delahaye, alias Molécule, qui a réalisé ses deux derniers albums de musique électronique en conditions extrêmes en utilisant des sons enregistrés sur le terrain. Voilà pour les pérégrinations du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne et préparée par Sophie Vaux et Alexandre Chaune.
Le monde souterrain des arbres est aussi vaste et aussi important que sa partie émergée. Les racines n'ont qu'un faible rôle d'ancrage. Elles servent surtout de capteurs d'eau. Elles s'associent à de mystérieux filaments, des champignons, acteurs secrets, mais essentiels à la vie de la forêt. L'eau est vitale pour les arbres. Et les champignons aident les racines à la capter en démultipliant leurs tentacules minuscules sous la surface. En retour, l'arbre partage avec eux l'énergie fabriquée par ses parties aériennes.
Extrait du film « Il était une forêt » de Luc Jacquet qui nous montre la forêt avec le regard du botaniste Francis Allais qui signe d'ailleurs la postface de votre livre Marc-André Sellos, « Jamais seul ». On n'imagine pas le rôle des champignons dans la vie d'une forêt, Marc-André Sellos.
On l'imagine pas pour deux raisons. La première, c'est que ces champignons sont des filaments microscopiques, pas visibles à l'œil nu. Encore qu'en regardant bien, des fois avec une loupe, on y arrive. Hein. Et deuxièmement, le sol n'est pas transparent. Et pour nous, le sol, c'est une surface. Alors qu'en fait, il a une épaisseur. Et dans cette épaisseur, bah, bien sûr, comme partout, c'est plein de microbes.
Alors, il y a peut-être un malentendu sur ces champignons. Nous, les champignons, ce qu'on voit, ce sont ces pieds avec le petit chapeau dessus. Quand on va aux champignons, c'est ça qu'on ramasse. Mais ça, c'est qu'une partie finalement infime de ce qu'est le champignon. Qu'est-ce que c'est ce qu'on ramasse ?
La partie qui passe à la casserole, c'est en fait l'organe reproducteur du champignon. C'est là qu'il produit des spores qui lui permettent de se disséminer ensuite, hein, de se reproduire. Mais c'est un petit peu aux champignons ce que la pomme est au pommier. Sauf que quand on voit une pomme, en général, on voit le pommier. Ouais. Dans le cas du champignon, ce sont des filaments microscopiques qui sont dans le sol et on ne les voit pas et on ne sait pas ce qu'ils font. Mmh. En tout cas, ce n'est pas spontanément qu'on peut imaginer, par exemple, que ces cèpes, ces girolles, ces trompettes de la mort, ces amanites qu'on voit en forêt, ce sont en fait des champignons qui sont associés étroitement par ces champignons aux racines des arbres, sans lesquels ils ne se nourriraient pas, ils ne parviendraient pas à avoir de sucre.
Oui. Alors aujourd'hui, il y a des interactions qui sont permises grâce aux champignons, mais si on remonte même au-delà, si on remonte aux origines, ce sont les champignons qui ont permis aux plantes de s'installer sur la terre ferme. Ils ont joué un rôle majeur dans la sortie des eaux, ces champignons.
Mais oui, bon, la plupart d'entre nous en ce moment est en vacances au bord de la mer. Ouais. Quand on regarde les algues, on voit très bien que les algues qui ressemblent aux ancêtres des plantes terrestres, n'ont pas de moyen d'envahir le substrat sur lequel elles sont posées. En fait, quand les algues sont sorties de l'eau, elles étaient capables d'exploiter les gaz et la lumière qu'il y a dans l'air, mais elles n'étaient pas capables d'aller chercher l'eau, comme on l'entendait dans l'extrait, ou les sels minéraux, le phosphore, l'azote dans le sol. Et en réalité, ce qui est sorti de l'eau, c'est pas une algue. C'est une algue déjà associée à des champignons qui, eux, étaient capables d'aller chercher les ressources dans le sol. Et les premières plantes terrestres n'ont pas de racines. Oui. Elles ont simplement des parties rampantes qui sont associées à des champignons qui sont dans le sol. Et puis, dans l'évolution, les racines arrivent après pour abriter plus de champignons, pour interagir plus avec des champignons.
Mais il faut bien d'ailleurs se représenter ce qu'était le sol à ce moment-là. Pas de terre meuble, pas de boue, puisque évidemment, toute la partie humus n'avait pas pu se former. Elle est le fruit justement d'organismes vivants qui se sont dégradés. Il n'y était pas au départ.
Effectivement, avant que les plantes soient là, il y a bien quelques bactéries à la surface de la terre, mais ça n'abîme pas la roche de la même façon qu'aujourd'hui la végétation. Et puis, il n'y a pas ce dense réseau de racines et de filaments de champignons qui retient les débris. Débris qui sont à la fois ceux de la roche endommagée par les deux compagnons, mais également les morceaux, les débris de plantes. Et les sols sont apparus à cette époque-là. Il faut bien voir effectivement qu'avant qu'une association entre des champignons et ce qui fut des algues et qui allait devenir des plantes terrestres n'apparaisse, il n'y avait pas de sol.
Ouais. Alors déjà, un premier rôle majeur de ce micro-organisme d'avoir permis la sortie des eaux des plantes. Pour comprendre encore aujourd'hui ce rôle majeur que jouent les champignons, un exemple tout simple. On se déplace, on part en Amérique du Sud, où on a voulu implanter des pins. Alors c'était au 19e siècle, on traverse les océans à bord de bateaux, on utilise des bateaux en bois, il faut un petit peu réparer les bateaux sur place, on se dit on va faire pousser des pins, ça permettra de réparer le bateau. Or, on n'y arrive pas.
Ça pousse vite et partout chez nous, ça fait partie des premiers arbres qui reviennent quand la forêt s'installe à nouveau sur une friche. Et c'est l'histoire d'un bivouac raté, le coup, parce que ça pousse pas. On amène des graines, on les fait germer, elles germent, elles font quelques petites aiguilles vertes et puis ça sèche, ça meurt. Ce qu'on va faire empiriquement à l'époque, c'est d'amener de la terre de métropole. En fait, d'ailleurs, très souvent, on amène des pins déjà, des petits pins déjà enracinés. Et en fait, on amène sans le savoir ces champignons. Ce que ce voyage raconte et qu'on n'avait pas sur place vraiment observé, c'est que les pins, comme beaucoup d'autres plantes, dépendent vitalement de ces champignons. C'est nécessaire pour eux. Ils ne supportent pas les substances toxiques du sol, ils ne parviennent pas à se nourrir sans eux. Mais chez nous, ces champignons sont partout, dans tous les sols. Et quand on plante un pin, ma foi, ils trouvent partenaire, je veux dire, champignon à son pied, ou champignon à sa racine. Bon. En réalité, c'est pas du tout le cas sous les tropiques. Il n'y avait pas ces champignons-là, il n'y avait pas ces champignons qui sont nos champignons forestiers. Il y avait d'autres champignons, les plantes tropicales ont également des partenaires dans le sol. Mais ce qu'a révélé ce voyage-là, c'est ce besoin vital d'un champignon pour faire pousser une plante. Ouais. Mais la plupart du temps, ce besoin est assouvi parce que ces champignons sont partout. Ouais.
Et voilà, il est vital pour cette plante, mais ça n'est qu'un exemple. Les champignons sont nécessaires à toutes les plantes pour qu'elles se nourrissent.
Chaque plante a ses champignons. Il y a quelques plantes, il y a peut-être un dixième des plantes qui font exception à cette règle, mais elles sont apparues secondairement. Elles sont affectées à des milieux très riches où elles arrivent à se débrouiller toutes seules parce qu'il y a énormément d'eau et de sels minéraux dans les sols. Mais c'est l'exception, la règle, c'est qu'il n'y a pas de plantes sans champignons.
Et alors comment ça se passe au niveau des racines? Parce que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire les champignons ne sont pas des grands altruistes de la nature. S'ils nourrissent la plante, c'est qu'en retour, ils en tirent quelque chose.
C'est très clair. Comme on le disait tout à l'heure, les champignons forestiers, les girolles, les cèpes, ça se trouve qu'en forêt, ces champignons, interagissant avec les plantes, a ses plantes partenaires et il en retire des sucres. C'est sa façon de se nourrir en termes de sucre. Et il en est donc vitalement dépendant. La plante, elle, en échange, reçoit donc de l'azote, du phosphate, de l'eau. Et on sait très bien aujourd'hui comment ça se passe. Tout un tas d'interactions se mettent en place et ne se stabilisent que celles où les deux partenaires reçoivent ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que si un champignon se comporte sur une plante en malotru, en prenant du sucre sans en livrer de sels minéraux, bien l'association s'effondre et elle ne se poursuit pas, les échanges s'arrêtent. Ouais. Et du coup, il n'y a que les couples, si j'ose dire, altruistes, c'est-à-dire les couples où il y a de la réciprocité dans l'échange, qui continuent de fonctionner et qui assurent donc la survie des partenaires en présence.
Ce qui fait que le produit de la photosynthèse est en partie restitué aux champignons. Il prélève un pourcentage non négligeable du produit de la photosynthèse des arbres.
On pense entre 10 et 40% de la photosynthèse qui termine.
Dans les champignons.
Dans les champignons, ouais.
Un lourd tribut que les arbres doivent payer hein, pour avoir ces champignons à leur pied.
Mais c'est le prix de leur alimentation par ailleurs. Donc, ils se retrouvent quelque part. Hein. Mais effectivement, on imagine mal à quel point une partie de la physiologie des grands organismes qui nous entourent est en quelque sorte orientée pour abriter et aider les microbes qui, par ailleurs, aident cette structure, cette plante ou cet animal.
Alors, ils l'aident de différentes façons, hein, ces champignons qui établissent un véritable réseau dans le sol, parce qu'ils permettent aussi de connecter les arbres les uns aux autres. Si bien, et là c'est encore plus surprenant, on va trouver dans les arbres d'à côté des produits de photosynthèse de l'arbre voisin. Autrement dit, mise en commun des ressources dans la forêt grâce à ces champignons qui prennent d'un côté et qui redonnent de l'autre.
Oui, alors ça a été d'ailleurs vulgarisé sous l'idée qu'il y aurait une sorte de wood wide web, une espèce d'internet entre les plantes. Bon, moi j'aime pas trop cette image parce que d'abord c'est pas des tuyaux les champignons, c'est des organismes qui ont des réactions physiologiques, des intérêts, qui peuvent aussi se comporter en parasites ou alors en altruistes. Mais il est vrai effectivement que le même champignon peut coloniser plusieurs plantes, d'ailleurs éventuellement d'espèces différentes. Il y a des échanges et mon équipe au muséum travaille là-dessus. Beaucoup, on a encore du mal à cerner globalement l'importance de ces échanges, notamment pour les plantes qui sont mises en présence. Mais nous travaillons sur des petites orchidées forestières qui vivent dans la pénombre, alors il n'y a pas beaucoup de lumière, et elles font donc pas beaucoup de photosynthèse, mais elles partagent les champignons des arbres, et en fait, elles sont nourries indirectement par les arbres, c'est-à-dire que par le biais des champignons, elles ont accès à la photosynthèse des arbres, qui ont gagné la course vers la lumière, mais qui se retrouvent doublées par en dessous. Et ces orchidées, d'ailleurs, certaines d'entre elles ont carrément perdu la chlorophylle. Il n'y a pas que des orchidées, d'ailleurs, en forêt tropicale, il y a beaucoup de plantes de la famille des gentianes qui fonctionnent comme ça. Elles sont complètement non vertes, et nourries par ce réseau. Ce réseau, effectivement, montre que ces interactions avec des microbes, elles peuvent aussi finalement aussi interférer avec les interactions entre les plantes. Mmh. Ou entre les animaux d'ailleurs.
Oui. Entre les plantes et les animaux aussi.
Oh, hein. Oui.
Il y a certains champignons qui, en s'associant avec des plantes, les rendent toxiques pour d'autres animaux. D'ailleurs, on l'avait bien compris hein, dans certains pays, je crois que c'était en Argentine, où on savait, en tout cas les locaux, hein, les Amérindiens, savaient qu'il ne fallait pas faire paître dans certains prés leurs chevaux parce qu'ils allaient s'empoisonner avec ces plantes qui s'étaient associées à des champignons.
Oui, là-bas, il y a un poa, une petite graminée, une petite herbe, un poa ouécou. Ouécou, ça veut dire tueur en langage vernaculaire, qui est très très toxique. Alors, ils ne savaient pas que c'était un champignon, bien sûr, mais quand ils étaient poursuivis par des Occidentaux, ils se débrouillaient pour passer ces grandes étendues herbeuses de pois ouécou. Et, de temps à autre, à l'occasion d'une halte, sans le savoir que c'était toxique, les Européens laissaient leurs chevaux paître, qui finissaient par se tordre de douleur et qui pouvaient même en crever.
Ouais. Alors, c'était un piège qu'ils leur tendaient.
C'était un piège, et puis ils ne savaient pas qu'il y avait des champignons. Mais en fait, les champignons, il y a aussi d'autres champignons dans les parties aériennes de la plante.
Ouais.
Ces champignons-là sont installés là et se nourrissent là, mais ils peuvent également rendre des services, comme défendre les plantes. Et ceux qu'on mentionne là, tout simplement, sécrètent des toxines qui vont faire que rapidement les animaux évitent en fait de manger ces plantes. Ouais. C'est une protection par champignon.
Nous ne sommes qu'au début de notre exploration de la planète des microbes. Il existe bien d'autres interactions de ces microbes avec les animaux, y compris avec nous, les humains. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pour adresser une question à notre invité Marc-André Sellos, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Les faux départs, les ratés, le flou artistique. moitié à voir par ta posture ironique. Toi-même tu sais y a un hic. Tant tu t'appliques à l'erreur, ça n'a pas pris ni de valeur. C'est tellement chic d'être un loser.
C'était magnifique de Junior sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Pourquoi y a-t-il autant de bactéries dans la cellule, dans le corps du puceron ? Parce qu'elles fournissent au puceron des éléments essentiels à son alimentation, ce que nous appelons les acides aminés. Si on élimine les bactéries de l'insecte avec un antibiotique, les pucerons absorbent la sève, mais ne se développent pas. Parce que sans les bactéries, ils ne peuvent plus fabriquer de protéines. Cette bactérie est donc très importante, cruciale pour leur nutrition.
C'était Takem Fukatsu, chercheur japonais, dans un extrait du documentaire « Ces microbes qui nous gouvernent ». Avec nous, dans le temps d'un bivouac, aujourd'hui, Marc-André Sellos, auteur de « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » paru chez Actes Sud. Voilà un autre exemple, Marc-André Sellos, d'interaction. Alors, on n'est plus avec des champignons, on est entre un puceron et des bactéries. Et là aussi, sans les bactéries, les pucerons ne pourraient pas vivre.
Oui, alors c'est quelque chose de vraiment très important et Takemi Fukatsu, qui est quelqu'un que je connais très bien, fait des recherches assez merveilleuses là-dessus. Derrière l'hyperdiversité des insectes se cache une hyperdiversité de façons de vivre et de façons de vivre de choses très hostiles finalement. Il y a certains insectes qui mangent du vieux cuir, d'autres qui mangent du tabac sec, d'autres qui mangent de la sève.
Ouais.
Or, ces aliments-là sont des aliments très incomplets, notamment par rapport, comme il était dit, à ces acides aminés, ces composants des protéines dont certains, nous ne savons pas les fabriquer, nous devons les trouver, nous, animaux, dans notre alimentation. Et en fait, les insectes embarquent des petites bactéries qui leur permettent de synthétiser ces molécules qu'ils ne savent pas synthétiser eux-mêmes. Et du coup, sur un aliment qui n'est pas suffisant normalement pour un animal, ils complètent leur alimentation. Alors, un petit puceron d'un demi-milligramme contient 6 millions de bactéries. Et là, vous dites, quand je vois un puceron, est-ce que c'est un puceron ou une colonie de bactéries ? Parce qu'il faut énormément de bactéries pour faire ce travail. Mais il y a d'autres insectes plus proches de nous, les puces, les poux, ou les mouches tsetse, les insectes qui boivent du sang, ils manquent des vitamines. Notamment, il y a un gros déficit en vitamine B. Et c'est pareil, ils contiennent des bactéries qui leur permettent de compléter cet aliment en faisant de la vitamine B. Ouais. Donc ils ont des espèces de petits patchs, en quelque sorte, physiologiques, qui leur font les compléments nécessaires et qui autorisent aux insectes une énorme diversification. On compte qu'un gros quart des insectes est associé à des bactéries. Et en réalité, ces bactéries sont des auxiliaires de leur diversité. Ouais. Derrière l'hyperdiversité des insectes, dont on nous dit tout le temps « Ah oui, il y a des millions d'espèces d'insectes sans doute », il y a un artisan de cette diversité et de cette adaptation à des niches écologiques multiples, ouais, et parfois bizarres, des microbes.
Ce sont ces bactéries, et qui sont encore plus diverses finalement et encore plus foisonnantes que les insectes que,
ah oui,
que l'on
regarde. Il y a aussi d'ailleurs des levures, il y a aussi des champignons unicellulaires, enfin, il y a une grande diversité de microbes, ouais, en général, qui contribuent à la diversité des insectes.
Là, ce sont des symbioses, ce sont des interactions, c'est du parasitisme. Comment vous le qualifiez, cette interaction entre ces microbes et puis ces petits insectes ?
Alors, il est le temps de le dire. Longtemps, la biologie a reconnu et a construit sa pensée sur le parasitisme, la compétition, bref, ces interactions entre espèces qui sont négatives pour au moins l'un d'entre eux. Dans le cas d'une prédation, par exemple, je ne vous fais pas de dessin, il y en a un qui n'est pas satisfait à la fin de la journée. Ouais. Bien, aujourd'hui, en l'observation du monde vivant, on reconnaît qu'il y a une autre grande interaction qui n'est pas anecdotique, comme on l'a longtemps supposé, mais qui est fondatrice, et on vient de voir comment elle fonde des insectes ou des arbres, c'est ce qu'on appelle le mutualisme, c'est-à-dire le fait que l'interaction se fait à bénéfice mutuel. Et alors, on a un autre terme qui tourne aussi, qui est le mot de symbiose. C'est le cas où les deux partenaires sont non seulement mutualistes, mais vivent ensemble, scotchés ensemble. Ces insectes avec les bactéries qu'ils contiennent. Ouais.
Alors les scientifiques sont passés longtemps à côté de jolis exemples de symbiose. Il y en a un dans votre livre, le lichen. Qu'est-ce que c'est que le lichen et pourquoi pendant longtemps les scientifiques se sont complètement plantés au sujet de la nature du lichen ?
Alors ils sont longtemps plantés, c'est vrai. Maintenant c'est quand même un des premiers exemples qui était déterminé comme une association entre deux espèces et qui a débouché vers 1878 sur la notion de symbiose. Alors, en réalité, les lichens ont longtemps été considérés. Quand vous regardez un lichen, il y en a sur les rochers, il y en a sur les arbres, ça ressemble un peu à des mousses ou à des algues qui vivraient à l'air libre. Ça a une unité morphologique et longtemps, ça a été pris pour un seul organisme. Puis Schwendener, vers 1866, a fait une communication. Il n'a jamais écrit d'article, mais il a fait une conférence où il a dit, mais au microscope, quand même, il y a des filaments transparents qui rappellent les filaments microscopiques de champignons dont on parlait tout à l'heure et qu'on peut aussi trouver dans le sol. Puis il y a des petites cellules rondes et vertes qui font la photosynthèse et qui rappellent des algues. Et il va proposer que ce soit en fait une symbiose entre une algue et un champignon. Et un grand spécialiste des lichens qui a nommé plus d'un millier d'espèces de lichens, Nylander, qui va d'ailleurs mourir chez nous, hein, bien qu'étant scandinave, il meurt à Clermont-Ferrand. Et jusqu'à sa mort, il va dire que c'est n'importe quoi et que ça dépasse l'entendement. Sauf que, petit à petit, ça va convaincre de plus en plus de gens et ce sera un des premiers exemples qui révélera que derrière une structure unique, il y a plusieurs partenaires, mais ils sont tellement intégrés qu'il faut des fois creuser pour repérer qu'il y a deux choses.
Et oui, il y a un autre exemple sur lequel un scientifique, et non des moindres, s'était interrogé et s'était aussi un petit peu cassé les dents, c'est le corail. Et Darwin s'est interrogé sur le corail. Qu'est-ce que c'était que ce corail et comment se faisait-il qu'il vive dans des endroits finalement très pauvres et qu'il semble se suffire à lui-même ? Le paradoxe de Darwin.
Alors effectivement, Darwin, lors de son voyage autour du globe, entre 1861 et 1836, va observer les écosystèmes coralliens. Et il va prendre conscience d'un paradoxe qu'il développera dans un bouquin de 1842 sur la structure et la nature des coraux, qui est qu'ils se développent dans des eaux qui sont extrêmement claires. On connaît tous ces eaux-là parce que c'est là qu'on va, on voudrait aller en vacances. Mais si elles sont claires et translucides, c'est qu'il n'y a rien à bouffer dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de débris qui arrivent par les rivières et il n'y a pas beaucoup de plancton, pas beaucoup de cellules de microscopiques de microbes qui se développent dans l'eau. Il n'y a rien à manger. Ouais. Or, il y a là 35% des espèces connues, des espèces marines connues.
Gilles Boeuf nous le rappelait hier, d'ailleurs. C'est un spot de biodiversité.
Oui. Je crois même qu'il évoquait ce chiffre de 600 espèces de coraux par kilomètre carré dans certains coins. On a là des productions de matière qui sont de 1 à 2 fois plus grandes que la production de matière dans une forêt tropicale, c'est-à-dire parmi les écosystèmes terrestres les plus productifs. Mais ça peut pas, puisqu'il n'y a rien à manger. Et en fait, le paradoxe se résout de la façon suivante. Ces coraux très colorés contiennent des petites algues dans leurs cellules. Des algues qu'ils ont avalées, en quelque sorte, mais pas digérées. Et ces algues sont capables de faire la photosynthèse pour eux et de les nourrir. Bon, eux restent capables. C'est comme des micro-anémones de mer qui vivent en gigantesques colonies. Et comme les anémones de mer, ils ont des petites tentacules, ils peuvent attraper de temps à autre une proie. Ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça s'est produit, eh bien, en quelque sorte, le recyclage commence. Quand ils produisent de l'urine à partir de ce qu'ils ont digéré, l'azote et le phosphate ne sont pas émis dehors comme nous, comme quand nous urinons, mais ils sont donnés à l'algue. Pour qui c'est un engrais ? Et cette algue, en période de disette, entre deux proies, elle donne des produits de la photosynthèse, des acides aminés, bref, elle alimente le corail. Et ça fait que finalement, à chaque fois qu'il rentre un peu d'azote et de phosphate par le biais d'une proie dans le système, ça ne ressort pas. C'est recyclé, ça tourne en boucle entre les partenaires.
Ouais. C'est un cercle vertueux où les deux organismes en boucle se
s'échangent. Ouais. Voilà. Et en fait, ça ne ressort jamais. Et alors, par-dessus se développe tout un tas de mangeurs de coraux, de parasites de coraux, bien sûr. Mais finalement, la base de la production, c'est cette symbiose et ce recyclage. Alors, il n'y a pas d'ailleurs que les coraux qui font ça. Il y a des très gros coquillages qu'on connaît tous, si on est allé une fois à la messe, c'est les bénitiers qui ont une coquille énorme, ils peuvent atteindre jusqu'à 200 kilos, et ces coquillages ne ferment jamais complètement leur coquille. Mmh. Ils étalent leur tissu à la lumière, car eux aussi contiennent des algues, ils mangent rien, ils se contentent de mettre leurs algues au soleil et ils sont nourris par leurs algues. Ils vivent dans les écosystèmes coralliens et ils appartiennent comme ça à toute une quinzaine d'organismes qui sont adaptés à ces milieux. Il n'y a rien à manger en vivant en autarcie avec une algue et en absorbant que de temps à autre un petit complément alimentaire pour enrichir le système.
Ouais. Alors on a beaucoup parlé des algues, des champignons, un tout petit peu des bactéries dans le cas des insectes, mais on ne s'est pas tellement interrogé sur les bactéries et les végétaux et sur la capacité. Les bactéries aussi sont très présentes dans le sol et elles aussi, elles jouent un rôle très important pour ces végétaux et pour leur absorption de nutriments.
Ah bah absolument. Elles sont notamment très abondantes dans ce qu'on appelle la rhizosphère. Ouais. Derrière ce terme technique se cache un truc tout bête. Allez arracher une plante dans le jardin, vous verrez qu'il y a de la terre qui adhère aux racines. Ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est cette partie, cette portion du sol qui est autour des racines et qui va être un peu modifiée par la racine. Par exemple, il y a tout un tas de sécrétions qui font que cette terre est engluée entre ces particules sont engluées entre elles et à la racine. C'est ce qui fait que quand vous arrachez votre racine, il y a de la terre autour. Et dans cette zone de sol modifiée, il y a évidemment une prolifération de bactéries tout à fait considérable. Attention, c'est pas toutes les bactéries du sol. Il y a déjà, par le biais des sécrétions de la plante, une modification des bactéries qui sont présentes. Mais ce sous-échantillonnage des bactéries du sol qui prolifèrent a des rôles très importants. Premier rôle, des rôles dans la mobilisation des ressources nutritives, l'azote, le phosphate ou le fer. Mais aussi, pour ces organismes-là, la racine... Et cette portion de sol, c'est leur milieu de vie, donc ils le défendent. C'est une façon de défendre leur santé. Et donc, ces microbes, ces bactéries qui entourent la racine, sont un voile protecteur. C'est la véritable protection de la racine contre les pathogènes. Et Dieu sait que dans le sol, il y en a qui peuvent arriver.
Mmh. Protecteur et aussi, mais on n'imagine pas jusqu'où peut intervenir la bactérie, mais dans l'odeur des fleurs, la bactérie aussi joue un rôle. Je crois que l'odeur de la fleur de sureau est en partie liée à une bactérie.
Alors, je vais vous donner la fleur de sureau, mais avant quand même. Les plantes sont faites de lacunes entre les cellules qui leur permettent de respirer. En fait, ces lacunes sont bourrées de bactéries et de champignons. Un gramme de feuille, 100 millions de bactéries. Alors un jour, pour mes étudiants, je me suis dit, mais parce que ça paraît dément, ça, je me dis, mais j'ai trouvé une image. Qu'est-ce que c'est une feuille de peuplier, 10 cm en gros, hein, pour une bactérie, un micron, un millionième de mètre Eh bien, c'est exactement comme toute l'agglomération parisienne pour moi humain, à l'échelle. Donc vous comprenez qu'on peut en entasser. Et en plus, comme une feuille, c'est assez épais à l'échelle de la bactérie, ce serait comme pour moi la région parisienne avec des gratte-ciels de 500 étages. On peut en entasser des hommes. Alors, après, toutes ces bactéries ont tout un tas de rôles et elles participent à tout un tas de fonctions. Par exemple, celles qui sont dans la fleur contribuent à volatiliser, à terminer la synthèse des molécules qui vont être émises et qui vont assurer l'odeur des fleurs. Et c'est dans le cas du sureau, quand on fumige avec des antibiotiques, c'est-à-dire quand on tue toutes les bactéries par des antibiotiques gazeux, on réduit l'émission des molécules aromatiques d'un facteur 3. Ça veut dire que les précurseurs qui vont permettre de faire l'odeur sont fabriqués par la plante, mais la fin de la fabrication et l'odeur in fine, c'est un truc auquel participent les bactéries. Elles participent à plein de choses, la protection, la nutrition et tout le métabolisme secondaire.
Alors elles participent pour les végétaux avec ces interactions, elles interagissent aussi avec tous les animaux, y compris avec nous. Elles constituent ce qu'on appelle notre microbiote et les chercheurs découvrent de plus en plus d'influence de notre microbiote sur ce que nous sommes. Nous en parlerons dans la suite de ce temps d'un bivouac sur France Inter.
I'm out of time. I'm thoughtless, but I've got a lot on my mind. Generation L, lost in love. Generation L. Generation L.
on a desert I call my own. I'm wasted on the loss of my childhood home. I'm tasteless, but I can charm a beer. They say that it's hopeless, but I'm still.
Generation Lost, c'était La Samalie sur France Inter.
L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
Et on étudie la vie jusque dans les prairies et on va s'intéresser aux vaches avec vous, Marc-André Sellos, auteur de Jamais seul chez Actes Sud. Alors nous n'avons pas changé de sujet, on s'intéresse toujours aux interactions entre les microbes et le reste du monde vivant. Et les vaches constituent un exemple qui semble beaucoup vous plaire, auquel vous vous consacrez plusieurs pages dans votre ouvrage. Pourquoi les vaches vous fascinent-elles tant ?
Alors si la question est personnelle, c'est que quand j'étais petit, j'ai vidé des étables et emmené des vaches au champ et que j'en ai gardé un souvenir ému.
Mais du point de vue de leur interaction avec les microbes, elles sont intéressantes.
Mais justement, voilà, pour le coup, elles sont jamais seules, elles sont même lourdement chargées pour le coup de partenaires. Puisque, c'est une expérience que je fais souvent avec mes étudiants, c'est de regarder un peu la composition des petits brins de paille qui restent dans les bouses de vaches. Et on s'aperçoit qu'en fait, les deux grands composants, la cellulose et la lignine, ne sont pas digérés. Ils sont passés intacts dans les bouses. Alors, pourquoi ? En fait, les vaches ont une énorme poche à l'entrée de l'estomac où elles abritent 100 à 250 litres de liquide qui contient toute l'herbe qu'elles ont ingérée et des tas de microbes, des bactéries et des champignons qui fermentent cette herbe. Et d'ailleurs, on la voit souvent mâcher, elle passe quand même une dizaine d'heures par jour à rien foutre en mâchouillant, simplement parce que elle régurgite ça et elle va mélanger l'eau, découper les fragments d'herbe pour que les microbes puissent attaquer plus facilement les surfaces ainsi démultipliées. Et en fait, elle prépare la nourriture pour ces microbes, elle aide ces microbes à manger. Et puis, un petit peu en aval de ça, elle filtre le jus qu'il y a dans cette grande poche digestive. Les petites particules d'herbe qui passent le filtre vont arriver intactes dans la bouse et nous montrer que la vache ne va pas digérer elle-même cette herbe. En revanche, elle va digérer les microbes, il n'en sort pas un seul. Elle a des enzymes dans son tube digestif qui lui permettent d'attaquer la paroi des bactéries, la paroi des champignons, et tout ça, elle le recycle. Et bon an mal an, ça lui fait 2 à 3 kilos de protéines microbiennes par jour.
Autrement dit, la vache ne mange pas d'herbe, elle mange des microbes qui digèrent de l'herbe. Ce sont les microbes.
Exact. En fait, manger, c'est ingérer et digérer.
Ouais.
Alors, elle ingère bien de l'herbe, oui. Mais elle va digérer les microbes qu'elle a aidé à se développer dessus. Et donc, elle a, bon an, mal an, 1 000 000 000 000 000 000 de cellules de microbes dans son tube digestif. Ouais. Je vous disais qu'elle n'était pas seule tout à l'heure.
Ouais.
Alors, c'est le paroxysme, parce que c'est un animal qui ne sait pas digérer l'herbe, mais dont on a longtemps cru, et en première approximation, c'est vrai, mais c'est plus subtil quand on regarde le détail, qu'elle était herbivore.
Ouais. C'est-à-dire que nous, on croit élever des vaches. En fait, ce sont surtout des vaches qui élèvent des bactéries dans leur tube digestif.
C'est un élevage emboîté, oui.
Ouais, un élevage intensif de la part de ces vaches. D'autres exemples.
Ah oui, parce que là, alors là, je ne sais pas en termes de conditions d'élevage si les microbes à l'intérieur sont heureux ou pas. On ne m'a jamais posé la question.
D'autres exemples, ce sont les baleines qui, pour pouvoir se nourrir de crevettes, elles aussi ont besoin de bactéries.
Oui, alors tout le monde sait que c'est difficile de peler les crevettes. Et les baleines mysticètes, hein, pour être très exact, les baleines à fanons, celles qui filtrent des petites crevettes dans le plancton, des micro-crevettes qu'on appelle le krill, eh bien elles ont le même problème. Pour digérer, en fait, ces petites crevettes ont aussi une carapace faite de chitine, et il faut avoir attaqué ça pour qu'ensuite les sucs digestifs arrivent à attaquer le corps de la crevette. Alors comment ces baleines pèlent-elles les crevettes? Eh bien, elles ont, comme les vaches, une poche juste à l'entrée de l'estomac où se trouvent des bactéries capables d'attaquer la chitine. Et les crevettes qui vont ressortir de cette poche seront déjà un petit peu épluchées et donc plus digestes pour la baleine. Les baleines épluchent les crevettes avec des microbes. Et globalement, c'est ces nombreux cas où la préparation des aliments passe par l'aide d'un microbe.
Ouais. Alors on a des fourmis aussi qui utilisent, alors elles, ce sont des champignons qu'elles utilisent pour se nourrir. Je laisse le soin à un certain Jean-Claude Amezen de vous le raconter.
Si vous suivez la caravane de fourmis chargées, elle vous mènera à la fourmilière. Elle peut être à 50 ou même à plus de 100 mètres plus loin. Inévitablement et souvent de manière très soudaine, la fourmilière apparaît. C'est une ville de plusieurs millions d'habitants, une métropole souterraine. Au-dessus est un dôme circulaire de sol excavé qui s'élève à 2 mètres ou plus. Sous la terre, des milliers de salles, du volume d'une tête humaine, toutes connectées par un labyrinthe de tunnels. Les salles sont emplies d'un champignon qui ne vit exclusivement qu'en symbiose avec ses fourmis agricultrices. À part la sève des plantes obtenues à partir de la végétation fraîchement coupée, les coupeuses de feuilles ne vivent que du champignon qu'elles cultivent. Elles ont inventé une méthode qui leur permet de convertir la végétation fraîche, que leur système digestif ne leur permet pas d'absorber, en un produit dont elles peuvent se nourrir. Et en utilisant la végétation fraîche pour faire pousser leur récolte, elles ont découvert une source virtuellement illimitée de nourriture.
Jean-Claude Amezen, que vous retrouvez bien sûr, même pendant l'été, tous les samedis à 11h sur France Inter. On se rend compte par ce nouvel exemple, Marc-André Sellos, que là encore, il y a un intermédiaire entre la nourriture et l'organisme qui en a besoin. On utilise des micro-organismes, en l'occurrence cette fois-ci ce sont des champignons qui font le travail.
Absolument, ces fourmis sont effectivement incapables de digérer la matière végétale. Et d'ailleurs, à part sucer un petit peu le jus cellulaire des feuilles qu'elles coupent, elles n'en font rien que de le ramener pour dresser des meules de culture du champignon dans ces fourmilières énormes qui étaient décrites à l'instant, qui sont soigneusement ventilées aussi. C'est des dispositifs très 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 complexes qui vont entretenir des conditions de température et d'atmosphère et d'humidité également. Il ne faut pas que l'air circule trop non plus pour que ça sèche. Propre au développement de ce champignon. Et ce champignon, quand les fourmis le manipulent à la surface du tas de feuilles, eh bien, il a tendance à former des grosses excroissances rondes que mangent les fourmis. Ces excroissances rondes, ils ne les forment pas sinon. Hein, elles sont uniquement formées sous l'effet du travail de taille et de manipulation des fourmis. Et ce sont des fourmis qui mangent strictement du champignon. Mais elles ont ainsi eu accès aux ressources végétales. Vous savez, quand on mange du champignon de Paris, on ne fait pas vraiment autre chose. Parce que c'est de la paille, voire du crottin de cheval, enfin c'est toutes sortes de choses que nous ne mangerions pas, n'est-ce pas?
Ouais.
Et transformer un champignon de Paris, ma foi, c'est mangeable. Finalement, elles ont en quelque sorte domestiqué des champignons comme nous l'avons fait également.
Ouais. C'est ça, on se rend compte que des espèces animales, alors on avait le cas de la vache, on a regardé les baleines avec les crevettes, maintenant ce sont des fourmis, utilisent voilà, des sortes d'artifices, ces micro-organismes pour se nourrir. Et nous n'échappons pas à la règle. Alors vous me donnez l'exemple des champignons et du crottin de cheval. Oui. Je ne l'avais pas, mais il est assez savoureux, si j'ose dire, cet exemple. Il y en a d'autres. Le lait. Alors aujourd'hui, une partie des humains sur Terre sont capables de boire un verre de lait de vache. Ils ont les enzymes qu'il faut pour digérer le lactose. Nos ancêtres n'avaient pas forcément cette enzyme pour digérer le lactose. Il a fallu trouver des subterfuges pour pouvoir se nourrir du lait de vache.
Oui, parce que tous ceux qui ne digèrent pas le lactose, vous le diront, c'est quand même extrêmement désagréable. Hein, quand on boit du lait, ce lactose en fait est fermenté par les bactéries intestinales et ça provoque des diarrhées parce que les produits acides qui sont dégagés par ces bactéries abîment la muqueuse intestinale et puis tirent l'eau hors du corps. Donc ça finit par être des diarrhées sanglantes, hein, disons-le. Donc boire du lait quand on est adulte, c'est pas agréable, c'est pas bon, c'est pas sain. Les enfants, eux, ont ces enzymes, mais ils les perdent au moment du sevrage, en général. Et nos ancêtres, on le sait, les premiers qui ont élevé des vaches, on retrouve leurs os et on peut faire des séquences, on peut regarder leur génome. Hein. En séquençant leur génome, on s'aperçoit qu'ils ne digéraient pas le lait. Mais pourtant, ils manipulaient du lait, parce qu'on a des poteries clairement avec des acides gras de lait. Donc ils traillaient les vaches. Qu'en faisaient-ils? Ben en fait, tout simplement, ils en faisaient des fromages, des yaourts. C'est-à-dire qu'ils le donnaient à fermenter à des micro-organismes. On connaît notamment des pots à faisselle qui ont eu à pratiquement 8000 ans, dans la zone où on a commencé à ce moment-là à domestiquer les vaches. Et on voit très bien que ces poteries contiennent des acides gras du lait, donc qu'ils ont contenu du lait. Et en fait, ça servait à faire des fromages. Et ces fromages, ou ces préparations comme des yaourts, tout le lactose est déjà consommé par les microbes, donc il n'est plus toxique. Il n'y a plus cette toxicité. Et dès lors qu'on avait du lait dans notre environnement, évidemment, ça a sélectionné parmi nous les petits malins qui pouvaient le boire tout de suite. Parce que ce qui est bu n'est plus à boire, comme dit l'autre. Il y avait un avantage à boire tout de suite le lait. Ouais. Mais c'est secondairement seulement qu'on est devenu tolérant au lactose, et encore pas tous. Puisque aujourd'hui, bon an, mal an, 30 à 40% des Français sont intolérants au lactose. Ils récapitulent cet état ancestral et ils expliquent, ils montrent deux choses. Il montre comment finalement on a évolué pour s'adapter aux vaches.
Ouais.
Ça, c'est une évolution.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de me dire. On est en train de voir sous nos yeux l'évolution en train de se faire, les interactions. Et puis, évidemment, puisqu'on côtoie du lait, on se met à finir par avoir les enzymes qui nous permettent de le boire.
Il n'y a pas de microbes là-dessous, mais c'est une chose extrêmement importante. Nous avons sélectionné les vaches pour qu'elles fassent plus de lait.
Ouais.
Mais nous-mêmes, nous avons été sélectionnés par les vaches pour digérer le lait.
Bon. Ouais.
Alors, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on voit très bien que, quelque part, les microbes nous ont donné accès à un aliment essentiel. Et il y a beaucoup d'aliments, notamment ceux que nous avons adoptés au néolithique. C'est-à-dire que nous avons commencé à avoir certaines plantes ou certaines ressources animales en grande quantité dans notre environnement. Il y a beaucoup de ressources qui ne nous auraient pas été accessibles sans ces microbes, car elles étaient toxiques dans l'état initial et pour les hommes d'alors. Et ça, on l'a oublié parce qu'aujourd'hui, ces plantes, ces animaux et nous-mêmes avons évolué. Et aujourd'hui, par exemple, vous pouvez manger du chou cru. Mais historiquement, le chou, c'est toxique. Le chou sauvage contient tout un tas de molécules qui lui servent à se défendre. Et les premières façons de manger le chou, ça a été c'était la choucroute. C'est-à-dire de le faire fermenter. Et la première chose que font les bactéries, c'est de détoxifier ces produits qui sont à la fois fortement... D'abord, ça fait des diarrhées, mais ensuite, ça provoque des problèmes hépatiques, rénaux, et puis finalement, c'est cancérigène à long terme. Bon, ces bactéries, la première chose qu'elles font quand elles voient ça, c'est de s'en débarrasser. Finalement, la choucroute, c'est du chou détoxifié. Et aujourd'hui, on oublie ça, parce que c'est vrai qu'on a sélectionné secondairement des choux qui se mangent crus.
Alors, on est en train de se rapprocher doucement de notre cas à nous, personnel, d'être humain. On va y aller, franchement. Dans un instant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle notre microbiote. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on utilisait des micro-organismes autour de nous pour un petit peu faire évoluer ou changer notre alimentation. Nous sommes aussi équipés de bactéries sur nous et en nous, et elles jouent un rôle important pour nous. Vous allez nous emmener sur cette planète de notre microbiote dans un instant sur France Inter.
Y'all move through.
Sun is Shining, c'était Bob Marley sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Voici la femme, Rayette. C'est ici qu'il y en a à boire. La source ne tarit jamais. Et elle donne au moins 10 litres par jour.
10 litres, tu plaisantes?
Pas du tout.
Peut-être même 15. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 15 litres d'eau?
Tu vas quand même pas boire tout ça.
Et pour me laver?
Pour se laver, une poignée d'eau, ça suffit.
Peut-être pour toi. Mais moi, il faut que je me savonne du haut en bas.
Pourquoi? T'es malade?
Non. Mais je suis de la ville, ça fait que je suis tout plein de microbes. Les microbes, il faut s'en méfier.
Qu'est-ce que c'est?
C'est des espèces de poux, mais si petits que tu ne peux pas les voir. Et si je me savonne pas tous les jours, ils vont me grignoter. Et un de ces quatre matins, tu me trouveras mort dans la grotte.
Alors, ça serait couillon.
Mais c'est de ta faute! Si tu ne m'avais pas garanti qu'au fond Brigitte, il avait de l'eau tant qu'on en voulait, je n'aurais jamais tenté l'aventure.
Je ne savais pas. Des microbes, j'en ai pas. Je sais même pas comment ça se dit un patois, un microbe.
Extrait de La gloire de mon père avec le petit Marcel qui s'abrite derrière l'excuse des microbes pour renoncer à son projet de rester planqué dans une grotte. Marc-André Sellos, Lily, l'ami de Marcel, a l'air moins effrayé par les microbes. On ferait bien d'être comme lui. C'est un peu le message de votre livre « Jamais seul ». Vous tentez de nous réconcilier avec tous ces microbes qui, pour la plupart, nous veulent plutôt du bien, finalement.
C'est une bonne nouvelle parce que tous les jours, on en rencontre des millions. Et si chacun d'entre eux était une maladie, nous ne serions pas là pour en parler. Non, il ne faut pas nier que les microbes, effectivement, sont pour certains d'entre eux causeurs de maladies. Mais ce dont on découvre aujourd'hui, c'est qu'ils sont au cœur du fonctionnement ordinaire de l'organisme. Que toutes nos fonctions, le développement de notre système nerveux, la régulation de notre prise de poids, de notre appétit, des aspects de notre comportement, le système immunitaire, sont composés avec des microbes. Mmh. Et quelque part, nous sommes un écosystème microbien. Et comme tous les écosystèmes, quand la biodiversité s'abaisse, vous perdez des fonctions. Et aujourd'hui, nous perdons des fonctions qui sont liées aux microbes. Et on sait aujourd'hui que des maladies, alors je reprends à l'envers le catalogue de tout à l'heure, mais des maladies auto-immunes, ou des maladies du système immunitaire, comme l'asthme, des maladies du comportement, comme l'autisme, des maladies du métabolisme, comme l'obésité ou le diabète, sont en fait en partie, alors c'est des maladies complexes, mais en partie causées par un microbiote, c'est un ensemble de microbes pas assez diversifiés, notamment dans l'enfance.
Nous sommes des écosystèmes microbiens. Il faut bien l'entendre, cette phrase. Tout d'un coup, vous êtes en train de nous asséner une drôle de vérité sur ce que nous sommes vraiment et les frontières de notre identité, de notre organisme, où ça s'arrête, où ça commence. Nos bactéries sont déjà un peu de nous-mêmes.
Absolument. Et en fait, elles sont nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous en tant qu'organisme en bonne santé, sain, sans elle. Et c'est pas du tout un paradoxe de dire que nous sommes un écosystème microbien. Moi-même, qui vous parle, je contiens plusieurs centaines, sans doute 400 à 500 espèces de bactéries. Et sans elles, eh bien, sans elles sur ma peau, j'attraperais des mycoses tout le temps. Sans elles dans mon tube digestif, j'aurais besoin de manger des capsules de vitamines comme complément alimentaire. Je digérerais probablement beaucoup moins bien. Il me faudrait, d'après les estimations, 30 à 40% d'aliments en plus pour arriver à la même croissance. Et puis, sans elles, mon humeur ne serait pas la même.
Ça, c'est intéressant. Alors, l'idée que nos bactéries influencent même notre humeur, voire notre caractère, des expériences absolument troublantes et édifiantes ont été faites avec des souris qui n'ont pas du tout de microbiote, complètement stériles de l'intestin.
Oui, ce sont des souris de labo élevées spécialement pour voir qu'est-ce qui se passe quand les microbes sont pas là.
Et elles n'ont pas le même comportement si on leur injecte un microbiote. Elles peuvent être soit plus peureuses ou au contraire téméraires selon le microbiote ou pas qu'elles possèdent.
En général, elles s'intéressent pas beaucoup aux voisines. Et quand on leur donne un microbiote, par exemple, d'un homme standard, elles s'intéressent tout d'un coup plus à leurs voisines. Elles ont plus d'échanges, plus de contacts, elles regardent plus les voisines. Si on leur donne un microbiote d'individus atteints d'autisme, eh bien, elles deviennent encore moins communicantes. Alors évidemment, chez l'homme, on fait pas de manipulation comme ça, mais on sait d'ores et déjà que, en donnant à certaines personnes soit un placebo, c'est-à-dire un truc qui ressemble à un yaourt, ou du yaourt, ou bien une substance blanche avec un lactobacille, Lactobacillus reuteri. Ces gens-là deviennent, les gens qui ont reçu la bactérie ou le yaourt, sont moins stressés face à des images extrêmement violentes. Mmh. On le voit aussi bien par ce qu'ils disent que par des électroencéphalogrammes. Alors, il est trop tôt pour utiliser ça comme traitement, parce que ces bactéries ont peut-être des effets secondaires non désirables.
Ouais.
Quoique le yaourt, ça fait longtemps qu'on sait que les effets indésirables sont pas violents. Moi, je mange beaucoup de yaourt, je peux vous garantir, après avoir lu tout ça. Mais, cela dit, le fait est que nous sommes construits dans notre fonctionnement ordinaire par ces microbes. Et aujourd'hui, là, L'hygiène dont on entendait parler dans cet extrait nous a privés de beaucoup d'entre elles et explique l'explosion de ces maladies de la modernité. 10 fois plus d'autisme en 30 ans. 30%, près de 30% des enfants atteints de dermatite atopique, ce problème de peau qui s'irrite très vite. Et on compte qu'en 2025, un individu, vivant en Europe sur 4 sera atteint d'une de ces maladies de la modernité. C'est une épidémie qui explose parce que nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Et comme je l'ai dit dans le livre, il faut retrouver la saleté propre,
ouais.
Ce degré de contamination qui est propre à nous maintenir en bonne santé.
Il faut se réconcilier avec nos bactéries et nos microbes, en quelque sorte. Allez, question d'auditeur pour vous. Comment se passe la transmission à la génération suivante d'un organisme symbiotique lors de la reproduction de l'hôte, comme par exemple les Bernard l'ermite et leur anémone? Question très précise de cet auditeur.
Ben ça, les Bernard l'ermite, ils sont obligés de la trouver, leur anémone, dans l'eau. Mais prenons l'homme, justement. Vous allez voir les deux mécanismes. Il y a les microbes de série, si j'ose dire, ceux qu'on hérite, et puis il y a ceux qu'on acquiert. Ceux qu'on monte, finalement, les options qu'on prend tardivement. Alors, ceux de série, ben, par exemple, au fond de nos cellules, il y a des bactéries qui sont dans nos cellules, les mitochondries. Alors, derrière ce nom barbare se cachent juste les bactéries qui font la respiration. Mmh. Quand je respire, c'est pas moi qui respire, c'est des petites bactéries au fond de mes cellules qui respirent. Mmh. Donc, elles sont héritées de la maman, parce qu'elles sont dans les cellules maternelles. Et puis, il y a toutes celles qu'on acquiert ensuite dans le milieu à partir de la naissance. Les premières sont celles du vagin maternel qui constituent notre première flore digestive. Après, il y a toutes celles qu'on va acquérir à partir de la peau des parents lors des contacts ou lors de la tétée, par exemple. Et puis, il va y avoir aussi celles qu'on va acquérir d'un milieu plus large. Par exemple, les enfants mettent des tas de trucs dans la bouche. Ben, moi, je suis persuadé qu'une des raisons de ce comportement qui est inné, c'est de s'infecter, c'est de construire cette microflore qui vont attendre jusqu'à 3 ans pour avoir un microbiote, on dit maintenant, adulte. C'est énorme, hein, quand on dit, bon, s'il faut 3 ans pour acquérir, c'est pratiquement autant de temps que pour apprendre à parler.
Ouais.
Donc, on les acquiert dans le milieu après la naissance, mais il y en a qu'on hérite de nos parents avant la naissance. Ou juste après.
En un mot, Marc-André Sellos, votre livre s'intitule « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux », alors tout ça on a bien compris, et les civilisations. Pourquoi vous allez jusqu'à dire que les civilisations ont été bâties par les microbes?
C'est une bonne raison d'acheter le livre, pour avoir la réponse. Non, plus sérieusement, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un grand nombre de conflits civilisationnels, comme par exemple l'invasion de l'Amérique par les Occidentaux, qui sont en fait des guerres bactériologiques, et où les bactéries ont été les meilleurs alliés des vainqueurs.
Ouais.
Et puis il y a aussi, ce qu'on évoquait tout à l'heure, toute cette idée que les aliments qui nous entourent à présent n'étaient pas comestibles à l'origine, pour les hommes tels qu'ils étaient à l'origine, et comme étaient ces aliments à l'origine, sans microbes. En fait, tout un tas de gestes civilisationnels, tout un tas également de faits historiques, sont pigmentés, teintés, habités de bactéries, car tout est, ou de champignons d'ailleurs, car tout est habité de microbes. Rien n'est jamais seul.
Rien n'est jamais seul. C'est la conclusion, hein. Vous n'en douterez plus après avoir lu ce livre de Marc-André Sellos, Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Je vous présente l'invité de la deuxième heure. Il s'est assis à notre table. Il s'appelle Romain Delahaye, plus connu sous le nom de Molécule. Bonjour Romain Delahaye.
Bonjour.
Vous êtes musicien, compositeur de musique électronique et vous avez réalisé vos deux derniers albums en conditions extrêmes en utilisant des sons enregistrés sur le terrain. Vous allez nous raconter ces aventures. Première expérience, c'était sur un chalutier en pleine tempête. En quelques mots, quel souvenir vous gardez de cette première expérience?
Des souvenirs assez forts. C'était en 2013, il y a 5 ans déjà. Et j'avais ce doux rêve d'aller mettre en musique la tempête. Donc je suis parti sur un chalutier de Saint-Malo pour un mois et demi de campagne et affronter l'Atlantique Nord avec des creux de 12-13 ouais. mètres.
Vous cherchiez la tempête, vous n'avez pas été déçu. Vous avez été servi de ce côté-là et puis ensuite vous êtes allé du côté du Groenland. Là encore, alors pour entendre des sons tout à fait différents, vous avez enregistré des silences, la glace qui casse et vous allez nous raconter comment tout ça a inspiré votre musique puisque c'est sur place ensuite que vous composez vos albums directement sur ce chalutier en pleine tempête ou par moins 20 degrés chez les Inuits, vous avez composé vos albums. On va découvrir ça dans un instant. Un grand merci à vous, Marc-André Sellos.
Merci beaucoup.
Et puis peut-être à bientôt pour un autre bivouac. Au revoir.
Au revoir.